Chapitre 16. Avec le mauvais temps, les rendez-vous devinrent plus faciles. Quand le vent d'ouest chassait la pluie par rafales qui emplissait les rues de flaques, ou quand la bise soufflait du nord, les clients n'avaient pas l'idée de quitter le coin de leur feu pour venir entretenir le notaire de leurs affaires, pas plus que Turlure pour tailler une bavette, et Madame Courteheuse n'avait plus à craindre d'être entraînée le long de la rivière au remous torrentueux, en d'intempestives promenades qui recommenceraient celles qu'il avait si fort émues. La Vaupalière, de son côté, était plus assurée de ne pas faire de fâcheuses rencontres dans les rues boueuses ou sur le quai glacial, et sous son parapluie qui le cachait autant qu'il l'abritait, la tête enfoncée dans un bonnet de fourrure rabattu, vêtu d'un gros bardessus qui dissimulait sa taille, il pouvait passer à côté des gens sans qu'on sût qui il était, ouvrier quittant son travail de nuit, aussi bien que bourgeois attardé. Et cela avait d'autant plus d'importance qu'un soir, de beau temps, mais de nuit sombre, il avait failli être reconnu par Boulnois au moment où, prêt à quitter le quai, il allait s'engager dans la ruelle qu'il croyait déserte. Sans qu'il sût d'où sortait le vieux caissier, il avait vu surgir à quelques pas de lui. « C'est vous, monsieur la Vaupalière ?» avait demandé Boulnois. Par bonheur, il n'avait pas perdu la tête et, continuant droit son chemin, il avait répondu, d'une voix dont la colère changeait le timbre naturel, par les seuls mots anglais qu'il sut, « Go on, rascal !» Cela avait été jeté d'un ton si raide, si menaçant, que Boulnois, qui n'aimait que les querelles de langue, avait filé au plus vite, tandis que lui-même suivait le quai sans se retourner, pour ne revenir qu'une heure après, et encore parler derrière. Que faisait là Boulnois? Rien, peut-être, mais peut-être aussi les épiait-il. Ce qui était parfaitement possible, avec un caractère comme le sien, toujours aux aguets, toujours aux écoutes. Mais si curieux que fût le vieux caissier, il était encore plus soucieux de sa santé, trop frileux pour sortir de chez lui à 11 heures du soir, un jour de mauvais temps, et s'embusquer dans une ruelle, au risque de gagner une fluxion de poitrine. L'été, on pouvait tout craindre de son espionnage, l'hiver, pas grand-chose. Qu'importait le mauvais temps à la Vaupalière ? Il sortait de sa chambre, où il avait gagné 11h30, assis dans un beau fauteuil devant le feu, en lisant les pieds sur les chenets, et quand il entrait dans le salon chaud, la brusque transition du froid du dehors à la moiteur de cette pièce parfumée lui donnait une agréable sensation, tout comme les lèvres brûlantes de sa maîtresse se posant sur ses lèvres glacées. Une nuit qu'il arrivait ruisselant de pluie, il crut remarquer, au moment où elle lui prit la main, qu'elle était agitée par un tremblement qui se trahissait dans ses doigts. « Est-ce qu'il y a quelque chose ? » murmura-t-il. « Tout à l'heure. » Aussitôt qu'ils furent dans le salon et qu'elle l'eut débarrassé de son pardessus alourdi par l'eau, il revint à sa question, car elle était si imprudente, ou plutôt si indifférente au danger, qu'il se tenait toujours sur ses gardes, pour lui en même temps que pour elle. « Eh bien, demanda-t-il, qu'as-tu ? » « Je crois que j'ai mis double dose. »« Quelle dose ? » ?»« De la drogue. » »« Comment cela ?» « Pendant que j'étais en train de préparer le grog, j'ai été dérangé. Quand je suis revenu, je ne me suis plus rappelé si j'avais versé le sulfonal dans le verre. »« Il fallait regarder. » »« Cela n'était pas facile, il me fallait venir sous la lampe et il aurait pu s'en étonner. Tu me diras qu'il fallait jeter le grog commencé et en préparer un autre. Mais cela non plus n'était pas facile, puisque je n'avais pas de vase pour vider mon verre, ni d'autre verre. Que faire ? Si je n'avais pas versé le sulfonal, il ne dormait pas et je te laissais dehors. Si, au contraire, j'en avais déjà versé une dose, je lui en administrais une seconde. Alors quel effet se produirait-il ? Dans le doute, je n'ai pas hésité. Et alors ? Le sommeil l'a pris un quart d'heure plus tôt que de coutume. Et depuis ? Il dort lourdement, très lourdement. Plus lourdement que les autres nuits ? Je crois. Il n'a pas vomi ? Devait-il vomir ? Je n'en sais rien. Tu ne sais pas quels sont les effets de cette drogue ? Je sais qu'à la dose d'un gramme, elle fait dormir. Et à plus forte dose ? Ah, voilà ! Tu ne sais pas si c'est un poison ? Pas du tout. Si c'en était un ? Ils se regardèrent un moment, les yeux dans les yeux profondément, Et pendant assez longtemps, ils gardèrent un silence plein de pensées qui allait plus vite que les paroles. Ce fut lui qui le premier rompit le silence. « Ma foi, tant pis, » dit-il. « Ou tant mieux. » De nouveau, leurs lèvres se turent et leurs yeux seuls échangèrent leurs réflexions. « Nous en serions débarrassés, » dit-elle. « Et sans remords pour toi, puisque ce serait un accident, arrivé en dehors de ta volonté, sans intention préconçue de ta part. Et quand il mourait par ma volonté, par suite d'une intention préconçue, comme tu dis, crois-tu que j'en aurais des remords ? Des remords de quoi ? Pourquoi ? Pour la mort d'un homme que je déteste, qui est entre nous, qui empêche notre bonheur ? Je ne comprends pas. Mais je ne pense qu'à cela depuis que nous nous aimons. Je ne souhaite que cela. Sais-tu que chaque fois qu'il sort, je fais des prières pour qu'il ne rentre pas ? J'invente des cataclysmes effroyables dans lesquels il est anéanti. Je sais bien que c'est un romanesque enfantin, mais cela n'empêche pas que je me dise qu'un accident peut cependant arriver. Pourquoi le bateau sur lequel il est embarqué ne coulerait-il pas ? Il ne sait pas nager, le maladroit. Pourquoi son train ne serait-il pas broyé par un autre train ? Pourquoi une voiture ne l'écraserait-elle pas ? Une cheminée ne lui tomberait-elle pas sur la tête ? Ça se voit, ces choses-là. Pas assez souvent, par malheur. Mais enfin, pourquoi n'aurais-je pas cette chance ? Et tu veux qu'après avoir imaginé des catastrophes dans lesquelles périraient un tas de pauvres gens qui ne m'ont rien fait, j'ai des remords pour la seule mort d'un mari qui fait le tourment de ma vie et de la tienne. Ah non, non, mille fois ! Je n'admets pas cela, je ne sens pas cela. Parce que tu ne te rends pas compte de la différence qui existe entre les rêves de l'imagination et les faits de la réalité. Mais tu te trompes, je m'en rends très bien compte. La réalité, n'est-ce pas, c'est qu'il y a 3 heures, il a pris une drogue qui peut le tuer. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un fait. Eh bien, en présence de ce fait, je te répète ce que tu disais tout à l'heure. Ma foi, tant pis. Et moi, je te répète que tu parles ainsi parce que ce fait a été indépendant de ta volonté. Au reste, en y réfléchissant, nous pouvons nous dire qu'alors même que tu lui aurais donné double dose, l'effet n'en serait pas mortel. Tu crois ? Si on peut administrer sans danger 1 gramme d'un médicament, certainement 2 grammes ne sont pas mortels. Ils peuvent le rendre malade, mais c'est tout. Et cela peut même être un danger pour nous, s'il s'éveille sous l'influence de ces 2 grammes, s'il souffre, s'il vomit. Sois tranquille, s'il s'éveillait, j'ai l'oreille assez fine pour entendre d'ici ce qui se passerait dans sa chambre, puisque son lit est juste au-dessus de ce divan. D'ailleurs, j'imagine qu'il n'aurait pas les idées assez nettes pour que nous ayons rien à craindre de lui. Alors, tout est bien. Car si, par impossible, cette dose l'avait tué, tu dois admettre que cette mort subite n'aurait pas paru naturelle. On aurait cherché sa cause, ses auteurs, et il n'eût pas été difficile de les trouver. Quand on veut se débarrasser des gens, il faut s'y prendre avec plus d'adresse et de prudence. C'est égal, j'aurais cru que cette perspective de me voir veuve t'aurait causé plus de joie. Sois certaine que je ne souhaite rien tant que ce veuvage, mais encore faut-il qu'il se produise dans d'autres conditions. Vivre toujours ensemble du matin au soir, du soir au matin, n'être plus séparés, n'avoir plus à compter les minutes quand nous serons au bras l'un de l'autre, sans l'oppression atroce qui empoisonne les joies de les représente, que nous allons nous quitter, n'avoir qu'une même existence, qu'une même pensée, qu'une même âme. Oh, mon bien-aimé, ne connaîtrons-nous donc jamais ce bonheur ? Je n'ai pas d'autre désir dans le cœur, d'autre souci dans l'esprit. Je ramène tout à cette espérance qui m'hypnotise. C'est une idée fixe, une obsession, une manie, quelque chose qui, sur plus d'un point, doit se rapprocher de la folie. Voilà comment tu es aimé. » Elle avait jeté ce couplet avec une véhémence passionnée, les mains tendues vers lui, les yeux en extase, toute frémissante de la tête aux pieds. Elle reprit. « Il y a d'autres femmes que moi qui ont des amants qu'elles aiment. » Mais elles ont aussi, pour la plupart au moins, des enfants, un père, une mère, des amis. Elles ont des relations qui les distraient, des occupations, des devoirs à remplir, des visites à faire, à recevoir, qui prennent leur temps et forcément, qu'elles veuillent ou ne veuillent pas, les arrachent à leur amour. Il y en a même qui ont des maris qu'elles aiment quand même, ou en tout cas qu'elles estiment, et à qui elles sont attachées par un sentiment quelconque qui fait bon ménage avec leur passion pour leur amant. Moi, je n'ai rien, ni personne qui me distrait. Ni enfant, ni père, ni mère, ni occupation, ni relation, ni devoir, ni estime, ni affection pour mon mari. Je n'ai que mon amour dont je vis uniquement. Comprends-tu cela ? De nouveau, ils restèrent longtemps sans parler. « Serais-je digne de cet amour si je ne le comprenais pas ? » dit-il enfin. « Alors, ne me parle pas de remords. À vrai dire, je ne sais pas ce que c'est et n'imagine pas du tout ce que cela peut être. De remords, je n'en ai jamais eu qu'un, celui de m'être mariée, ce que je n'ai fait que pour sortir du couvent. Maintenant, je ne pense qu'à sortir du mariage. » Et pour mon amour, par amour, je suis capable de tout, sans que l'idée d'un sentiment qui m'est étranger puisse peser sur moi. Il y a des femmes qui sont ambitieuses, il y en a qui sont avaricieuses, d'autres qui sont mondaines, coquettes, vaniteuses. Moi, je suis et n'ai jamais été qu'amoureuse. L'amour a toujours été pour moi un besoin si impérieux qu'au couvent, pour le satisfaire, ou tout au moins pour me donner l'illusion d'une satisfaction trompeuse, j'assassinais mes camarades de belles histoires, aussi passionnées que romanesques, et dans lesquelles j'étais follement aimée. On se moquait de ces histoires, moi j'en vivais. On me riait au nez, et cependant, j'étais heureuse.